Amen. Bonjour à tous, bienvenue à l'escale ce matin. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je m'entends un peu fort là dans les retours. Si tu peux me descendre un petit peu. C'est les vacances, non? En tout cas, j'ai remarqué maintenant que je suis parent que c'est beaucoup de job pour les enfants, puis pour les parents, c'est un peu plus de job en fait. Hein, parce que même si l'école rythme nos journées, ben, quand ils sont à l'école, il y a quand même un petit moment de pause. Mais c'est aussi un temps super. Nous, on a pu fêter. On a dit, on va fêter la fin de l'année scolaire. Puis je crois que je peux encourager les parents à faire ça. Encouragez, fêtez vos enfants quand ils ont fini l'année. Je crois que ça les fait grandir aussi. Puis ça montre aussi qu'on est reconnaissant du bon travail qu'ils ont fourni. Alors pour l'instant, pour les nôtres, c'est facile. Hein. C'est sûr. Mais je crois qu'il faut... Il faut vraiment les encourager, ces enfants. Voilà, donc j'espère aussi que cette semaine, vous avez pu combattre ce bon combat, que vous avez pu prendre les armes. Vous avez vu, la semaine passée, on a pris les armes que Dieu nous donne, que ça a été utile dans votre semaine. En tout cas, pour moi, ça l'a été, hein, parce que je crois qu'on est facilement attaqué par divers pensées, puis j'ai dû de nouveau aussi combattre. Et donc, en résumé, je vous redis juste un petit peu ce qu'on a vu ces derniers dimanches. Donc, en résumé, on a saisi ce que signifie le bon combat, ça c'était le premier message. On a démasqué les pièges de l'ennemi, on a appris à se saisir de toutes les armes que Dieu nous donne afin de tenir ferme. Et puis ce matin, je vous propose de regarder, donc on va regarder trois stratégies pour remporter le combat. Et le 23 juillet, donc on va saisir la victoire, rester victorieux sur l'ennemi. Donc ce sera l'avant-dernier dimanche de juillet. Voilà. Une chose que j'aimerais vous dire en introduction, c'est que les stratégies de Dieu, on va le voir, sont vraiment pas les nôtres. Je pense que plusieurs vous pourrez dire amen à cela. Ésaïe 55:8 nous dit que les pensées de Dieu, ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées. Puis c'est tellement vrai quand on est dans ce cadre-là du combat. Et si on pense à nos propres vies, si vous pensez à vos propres vies, je suis sûr que vous pouvez reconnaître que la stratégie de Dieu pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas celle que vous auriez choisie. Amen. Est-ce que vous êtes parfois étonné de ce que Dieu fait ou de la manière qu'il le fait dans vos propres vies? Après une année de collaboration avec Corinne, notre chère secrétaire, j'ai enfin eu son témoignage. Alléluia. Bon, on est tellement, pour vous dire qu'on travaille tellement bien que des fois on oublie de se raconter un peu nos vies. Et puis, elle a connu Jésus en voulant prouver qu'il n'existait pas. C'est quand même génial, ça. Oui, c'est votre secrétaire à l'escale, les amis. Quel témoignage incroyable. À la fois, j'ai ri, puis à la fois, j'étais émerveillé de voir ça. Elle a voulu prouver aux gens que Dieu n'existait pas, et puis elle s'est convertie. Combien de fois on peut voir des situations se retourner d'une manière qui était improbable, surnaturelle, inattendue? Parce que c'est la stratégie de Dieu. Peut-être, parfois, c'est avec des échecs que Dieu opère. Et puis alors qu'on encourage nos enfants, peut-être que ce matin, il y en a qui ont loupé. Vous avez loupé votre année, vous avez loupé vos examens, vous avez vécu un échec, c'est pas facile, tu as loupé ton bac. J'ai envie de te dire, ne te décourage pas ce matin. Il y a 7 semaines pour découvrir la stratégie que Dieu veut opérer dans ta vie. Super, 7 semaines de vacances pour te dire qu'est-ce que Dieu veut faire avec mon échec. Puis c'est aussi vrai pour les adultes, parce qu'on a aussi des échecs, des fois c'est professionnel, des temps de chômage, des moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quelle est la stratégie de Dieu là-dedans? Donc on va regarder ce matin à trois combats différents, trois stratégies que l'Éternel a utilisées pour amener son peuple à la victoire. Puis on va voir que ce qui est intéressant finalement, c'est pas seulement la stratégie en matière militaire, hein, parce que peut-être qu'on ne pourrait pas en faire grand-chose dans notre contexte, mais c'est qu'est-ce que le peuple a appris, qu'est-ce que Dieu a voulu faire pour le peuple au travers de cette stratégie. Alors je vais aller dans un ordre chronologique et je vous propose donc de regarder un premier combat bien connu, ils sont tous assez connus, il s'agit de la bataille de Jéricho. Donc le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, vous savez l'histoire, il prend possession du pays promis. Et puis, c'était le pays donc, que Dieu avait promis, mais il fallait mener le combat. Puis ça, je leur dis souvent, pour nos propres vies, Hein, on a l'impression que Dieu nous promet des choses, puis que ça va tomber du ciel, mais il faut mener quand même un combat. Il a formé un plan sur nos vies, il trace un chemin, il a préparé des œuvres d'avance pour nous, il y a du terrain à conquérir, mais il faut faire des choix. Il faut consacrer sa vie, il faut payer un prix. Alors la première ville à laquelle il s'attaque, c'est donc Jéricho. C'était la toute première, c'était même la plus impressionnante, avec des murailles très hautes, qui allaient jusqu'à 7 mètres de haut, et puis qui étaient, on parle de 6 mètres de large, donc ils avaient vraiment une grande circonférence aussi. Et puis Jéricho était considérée comme imprenable. Donc elle était un symbole de puissance militaire pour les Cananéens. Alors gagner cette bataille, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire à la fois renforcer la terreur des Cananéens face au peuple de Dieu. Et puis c'était aussi montrer que Dieu était un Dieu tout-puissant, le Dieu des armées. Et ça allait forcément annoncer une bonne suite, parce que ce n'était pas juste une ville qu'il y avait à conquérir, il y en avait d'autres. Donc depuis sa succession à Moïse, Josué a été plein de fois encouragé, on cite souvent ces versets, par l'Éternel à être fort et courageux, à ne pas avoir peur. Et puis l'Éternel va lui dire son plan, sa super stratégie, et je pense que Josué à ce moment-là, il a compris pourquoi l'Éternel l'avait tellement encouragé avant. Vous allez comprendre, on va lire le texte ensemble, Josué 6, versets 1 à 5. Jéricho était complètement fermée devant les Israélites, personne n'en sortait et personne n'y entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, je t'ai livré Jéricho, son roi, les vaillants guerriers. Vous tous, les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville. Vous tournerez une fois autour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Sept prêtres porteront 7 trompes, les cornes de bélier, devant le coffre. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompe. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple lancera une grande acclamation. Le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. » Alors, une chose est sûre, là, tu es content de ne pas être Josué. Et puis là, Josué devait répéter les paroles que Dieu lui avait dit, « Sois fort, sois courageux. » Sois fort, sois courageux. Parce que ce qu'il reçoit, il faut le communiquer au peuple. Il faut le communiquer à des gars qui ont envie de faire la guerre, et puis il faut leur expliquer qu'on va tourner autour de la ville. On va juste marcher, on va faire une balade. Ça prenait même pas toute une journée, c'était pas énorme au niveau de la marche, quoi. Et puis ces gars, ils ont besoin d'être occupés, là. On va juste marcher, les amis. C'est ça le plan de Dieu. Yes! Mais avant de parler de la stratégie, j'aimerais regarder un mot. Le Seigneur dit, au verset 2, « Regarde, regarde, je t'ai livré Jéricho. Vois, vois, je t'ai livré Jéricho. » Et combattre le bon combat va demander des yeux qui voient au-delà du naturel. L'Éternel lui dit de regarder, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Il n'y a encore rien à voir. La muraille, elle est debout. Mais déjà, spirituellement, le combat, il est remporté. Alors c'est vrai, le texte nous dit quand même que Jéricho était complètement fermé. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que les habitants, les vaillants guerriers de cette ville, ils étaient quand même paralysés face à Israël qui était là. On peut imaginer ça qu'il y avait quand même un signe dans le naturel. Mais il fallait saisir cette réalité spirituelle, et puis avant même que le combat soit mené. Déjà, Dieu avait gagné. Déjà, il avait livré Jéricho. Ce n'est donc pas sur la difficulté humaine ou sur la manière de faire qu'il faut s'arrêter. Ce qui compte premièrement, c'est là où l'on place notre regard. Et je vous rappelle que le combat se manifeste dans le naturel, mais sa source, elle est spirituelle. C'est donc dans les lieux spirituels qu'il est premièrement remporté. C'est pour ça que j'avais dit c'est important de prier, parce que ça commence dans les lieux spirituels. Il faut aussi comprendre que Dieu ne nous donne pas sa stratégie sans nous dévoiler le résultat final. Ça, c'est un cadeau. Mais ce résultat va s'obtenir, donc la victoire va s'obtenir, si on suit la stratégie qu'il nous donne. Donc, il l'a livré, c'est fait, mais regarde comment tu dois faire. Regarde comment tu dois faire pour que cette réalité qui est vraie dans les lieux spirituels devienne vraie sur la terre, dans le naturel.
Et c'est ça le défi du bon combat. Saisir la victoire et se battre avec les armes de Dieu et avec sa stratégie. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font de la cuisine. Moi, je n'ai pas l'occasion d'en faire très souvent, mais parfois je m'essaye. Puis j'aime bien le freestyle. Et je suis toujours très enthousiaste hein, quand je vois des images, vous savez, sur les journaux, la COP, Migros, tout, des super gâteaux. Hein, vous savez, la belle mousse aux framboises, nappée de chocolat blanc et tout. Je dis, waouh, ça me fait envie. Moi, j'aime bien manger, c'est vrai. Et puis, par contre, quand je regarde la recette qui accompagne le truc, je suis toujours dubitatif. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et si je regarde, je dis, bah, déjà, ça va être long. Hein, ils disent toujours le temps. Hein, 35 minutes là, mon œil, en tout cas pour moi. Et puis on regarde tous les ingrédients, puis il y a non seulement les ingrédients, il faut déjà tous les avoir, après il faut les mettre dans le bon ordre, etc., etc. Ça me semble toujours très compliqué. Puis je me dis toujours, mais est-ce que vraiment il faut autant de sucre? Vous dites aussi ça hein? Est-ce que vraiment il faut autant de sucre dans les... Ou tant de beurre? Le sucre, le beurre, un peu d'huile, ça en fait des choses. Et puis après, elle dit, mais est-ce que vraiment cet élément-là est essentiel? Parce que vraiment, je ne pourrais pas imaginer autre chose. Donc moi, j'aime bien faire un peu mes stratégies. Et puis, je dois avouer qu'au final, le résultat, ben, ça ne ressemble pas forcément à l'image. Quoi. Ça, c'est sûr. Après, le goût, l'avantage, c'est que le goût, on ne peut jamais dire. Hein, parce qu'on n'a pas encore la possibilité de goûter le gâteau en regardant une image. Peut-être ça viendra dans les 20 prochaines années. On ne sait pas. Il faudrait bien imaginer quelque chose. Avec un QR code que tu lèches. Peut-être tu peux sentir le code. Oui, je sais, je rêve. En tout cas, voilà, je ne peux pas savoir si le goût y est ou pas. Mais tout ça pour dire que si on veut un gâteau qui ressemble à la photo, si on veut un gâteau qui répond aux promesses que nous donne le bon article, hein, puis de la super cuisinière qui a testé ce gâteau, ben, il faut suivre la recette avec exactitude. Et puis il semblerait que dans la pâtisserie, il faut être même vachement précis, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut réussir le gâteau, on ne peut pas l'adapter comme on veut. Puis des fois, on est même surpris qu'un petit élément enlevé fait une grande différence. Et dans le combat avec Dieu, c'est pareil. Tu vas réussir si tu suis sa recette. Même si elle te paraît étonnante, même si tu penses que peut-être tu pourrais peut-être enlever ça, peut-être que cet élément-là, ce n'est pas nécessaire, peut-être qu'on peut tourner 5 jours autour de la muraille, il y a peut-être besoin de tourner 6 fois. Hein, peut-être Josué il a dû se dire, oh, ben mince, j'ai plus de cornes de bélier, peut-être qu'on pourrait prendre des flûtes. Je ne crois pas que ça aurait fonctionné, quoi. Il fallait faire ce que Dieu a demandé. Donc, Josué sait que la bataille est remportée, mais il doit suivre les instructions de Dieu. Et ce matin, je ne vais pas vous expliquer en détail pourquoi 7 jours, pourquoi 7 trompettes, je vais juste en dire 2 mots, mais tout cela nous montre que simplement Jéricho, ce n'est pas juste une bataille humaine, c'est une bataille spirituelle. Donc on peut dire, ben oui, 7 c'est le chiffre parfait, hein, vous savez, le chiffre de Dieu qui représente sa plénitude, sa complétude. Moïse, on peut prendre des exemples, Moïse est resté 7 jours par exemple sur le mont Sinaï dans la présence de Dieu, donc il y a des échos dans la parole de Dieu. Les prêtres, ils utilisaient les trompes, les trompettes pour célébrer l'éternel les jours de fête. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on célèbre, c'est un jour de fête, en sonnant la trompette, les prêtres célèbrent l'œuvre de Dieu, sa toute puissance, sa fidélité. Donc bien sûr, il y a des significations, mais ce n'est pas ça que je veux souligner ce matin. Ce que je veux souligner, c'est que la stratégie utilisée par Dieu amène Josué à voir dans l'invisible et à obéir dans le naturel. Et c'est notre première clé que j'aimerais vraiment vous transmettre ce matin. Peut-être qu'ensemble, moi j'aimerais, ensemble qu'on puisse toucher la ville d'Yverdon. Alors je ne suis pas venu ce matin vous dire, super, on se motive, puis on va tourner autour de la ville, 7 fois. On est dimanche, 7e jour. Allez, on va tourner autour de la ville. Non, c'est pas ça que je suis venu vous dire. Mais j'aimerais vous dire est-ce qu'on peut regarder ensemble dans l'invisible? Est-ce qu'on est capable d'obéir à la stratégie que Dieu nous donne? La manière peut être folle, peut être imprévisible, peut être étonnante, mais elle le sera vraiment seulement si on a saisi la victoire et puis si on va aller jusqu'au bout, si on va obéir. Et dans ta propre vie, alors que tu choisis de suivre Jésus, que tu choisis de vivre pour lui, que tu choisis de te battre pour lui, de le mettre à la première place, c'est aussi tellement important d'apprendre à voir comme il voit, à regarder ce qu'il veut te montrer, à t'aligner à sa stratégie. Puis je vous promets que ça marche. On met des points. On gagne. C'est vrai que des fois, on n'est pas trop sûr que c'est la bonne stratégie. Parce que généralement, il n'y a personne pour nous dire « Ah ouais, c'est tip-top ce que tu fais. » Parce que c'est des fois étonnant, tellement étonnant que dans cette relation qu'on vit avec Dieu, ben, on doit lui faire confiance. Puis on va en parler encore. Mais lui ne se trompe pas. Et puis il y a toujours un fruit qui arrive au bon moment. Donc je vous encourage à écouter Dieu, chercher sa vision, persévérer dans votre obéissance. Une citation de Lauren Cunningham, fondateur de GEM. Donc Lauren, c'est un prénom masculin. Hein, moi, quand j'étais petit, j'entendais Lauren, je croyais que c'était une fille. Donc Lauren Cunningham, fondateur de GEM, qui a écrit un livre, il a écrit beaucoup de livres, hein, d'ailleurs des très bons livres, « Oser vivre sur la corde raide ». Et il cite ceci, « Ceux qui écoutent la voix de Dieu accompliront des choses qu'elles ne peuvent réaliser sans son aide. Ils franchissent des pas d'obéissance, puis permettent à Dieu d'accomplir sa part. En d'autres termes, la foi biblique exige que vous fassiez votre possible et que vous permettiez à Dieu de faire l'impossible. » Amen. On obéit, on fait des pas d'obéissance, on suit sa stratégie, on fait ce qu'il nous demande, et lui fait l'impossible. Il fait ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'arrive pas à faire. Deuxième bataille que j'aimerais voir avec vous, c'est celle de Gédéon. Alors maintenant, le peuple, hein, toujours le même peuple, il est désormais installé dans le pays promis, donc bien sûr on a sauté pas mal d'années là, et puis les territoires du pays ont été distribués par tribu, ont été répartis, mais maintenant la génération de Josué est morte, et puis rapidement la nouvelle génération va s'éloigner de l'Éternel. Alors ils vont se mélanger avec les gens qui étaient dans le pays, les gens qui y sont restés, et puis les hommes se marient avec des femmes d'autres cultures, d'autres religions on peut dire, et petit à petit ils vont commencer à tomber dans l'idolâtrie, ils adorent et servent de faux dieux. Alors la conséquence à cela, c'est que Dieu va laisser des autres peuples les piller et les asservir. Mais évidemment, parce que c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu de compassion, ben, il va quand même chaque fois susciter un juge qui va délivrer son peuple de l'oppression, et puis le cycle va recommencer, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont délivrés, ben, ils vont retomber dans l'idolâtrie, puis l'histoire va recommencer, jusqu'à ce que de nouveau quelqu'un crie à l'Éternel, l'Éternel suscite un homme pour délivrer son peuple, ou une femme, parce qu'il y a des femmes comme Déborah, et puis ensuite le cycle recommence. Alors dans ce contexte, les Israélites ont été livrés à 7 ans aux Madianites, peuple du désert, et puis chaque fois que la moisson est belle et prête, eux arrivent et viennent tout piller, ils leur laissent rien, ils prennent même les animaux, tout. Puis là, c'est là que Gédéon va crier à l'Éternel, et puis Dieu va l'établir pour délivrer son peuple de Madian. Donc Gédéon a été le cinquième juge en Israël, puis vous connaissez ça, hein, l'Éternel a envoyé un ange qui a dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ça aussi on connaît, hein, jusque-là on connaît. Après le reste de l'histoire, on ne connaît pas toujours. Donc Gédéon, il va douter, et puis il n'est pas sûr d'être un bon gars pour le job, ça aussi on voit souvent dans l'histoire, hein, comme Moïse, comme d'autres avant lui, on n'est jamais sûr que c'est vraiment nous que Dieu appelle. Et puis il demande des signes pour être confirmé, pour être sûr que c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Et il a eu ses réponses à ses signes. Et puis Gédéon va commencer à lever une armée. Et il se met en route. Puis rapidement, l'Éternel va lui révéler sa stratégie. Puis il commence à dire à Gédéon qu'il a pris trop de monde avec lui. Est-ce possible? Est-ce qu'on peut être trop pour faire la guerre? Est-ce qu'on peut être trop pour se battre? C'est un peu ce qui se passe avec l'armée suisse. Aujourd'hui, on réduit l'armée petit à petit. Il n'y a bientôt plus personne. Mais est-ce qu'on peut être trop pour faire la guerre? Donc Dieu lui demande de renvoyer tous ceux qui ont peur. C'est un bon critère. Tous ceux qui ont peur, rentrez à la maison. Puis là, vous allez être surpris, il y a eu 22 000 poules mouillées. 22 000! Ils rentrent à la maison et il en reste 10 000. Donc, d'un seul coup, Gédéon voit deux tiers de son armée qui rentrent à la maison. Sympa! Bon, il en reste quand même 10 000, il ne se décourage pas, il dit, ben voilà, on va continuer, c'est la stratégie de Dieu, hein. On avance. Et puis là, l'Éternel lui dit, ah mais c'est encore trop 10 000. Excuse-moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Oui, c'est trop. Et puis, donc, Dieu va réduire son armée à 300 hommes. Donc de 32 000, on va passer à 300 hommes. Voilà. Donc là, je me demande vraiment ce que devait penser Gédéon à ce moment-là. Donc il a tout fait pour lever une armée. Puis vous savez, ce n'était pas des emails, hein, ou ce n'était pas un petit téléphone. Les gars, vous pouvez venir nous aider un petit peu, hein. Il fallait contacter toutes les tribus, ça faisait comme une certaine distance, faire venir les hommes. Il lève 32 000 hommes, il est hyper content du résultat, j'imagine. Puis là, il se retrouve avec 300 hommes qui vont être sélectionnés, si vous connaissez l'histoire, à leur manière de boire de l'eau. Donc il ne les a pas sélectionnés en regardant si ça avait bien tiré avec des arcs ou si bien tenir une lance. Non, c'était comment ils allaient boire de l'eau. Est-ce qu'ils allaient prendre avec les mains et puis faire comme ça, ou bien s'ils allaient mettre la tête dans la rivière. C'est ça, comme ça que Dieu a sélectionné ces hommes. Pas mal, hein? Et puis le texte nous dit encore, donc ils prirent les provisions que la troupe avait en main, donc finalement les 300 hommes prennent le reste des choses. Et puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël dans leur tente, ne retenant que les 300 hommes. Et puis ce petit mot « retenant » signifie même que ces 300 hommes n'étaient certainement pas plus courageux que les 9700 autres. Ils auraient peut-être même bien voulu rentrer aussi à la maison. Il a quasiment dû les retenir. C'est le même terme qu'on utilise quand Pharaon retient le peuple d'Israël. Donc ce n'est pas quelque chose de super positif, quoi. Il a dû les retenir, les gars. Non, restez avec moi, vous, les 300 là. Non, rentrez pas à la maison. Donc ils n'étaient même pas très, très motivés pour aller au combat. La bonne nouvelle, le combat va réussir malgré tout. Et Dieu va dire à Gédéon, « Lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. » Puis là, la même chose dans l'histoire d'avant, ce n'est pas encore fait physiquement, mais déjà dans les lieux célestes, c'est le cas. Et il y a même une personne du camp des Madianites, c'est pour ça qu'il lui dit « descendre au camp », qui a rêvé, qui a reçu en rêve que Josué venait et gagnait la bataille. Donc c'était un signe de plus qui a encouragé Gédéon à dire « cette réalité qui est spirituelle, elle est vraie, et on va y aller ». Là aussi, ce n'est pas tant la bataille en elle-même qui nous intéresse, mais la stratégie de Dieu pour Gédéon. Non seulement, comme je l'ai dit avant, l'écoute de Dieu, l'obéissance est essentielle, mais s'ajoute la confiance totale et le lâcher de nos sécurités, de ses sécurités. Parce que l'Éternel enlève les sécurités de Gédéon. Il a assuré de sa présence dans l'aventure, et puis du coup, il lui enlève les autres sécurités. Et je crois que pour nous, c'est tellement important de connaître cette stratégie de Dieu. Parce que dans ce bon combat, il est avec toi, mais il veut qu'on lui fasse vraiment confiance. Et il va nous obliger parfois à abandonner nos propres sécurités. Il ne veut pas qu'on se confie à autre chose que lui. Et lorsqu'on contemple la victoire, Dieu veut que nous puissions dire que c'est uniquement grâce à lui. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas grâce aux 32 000 hommes de Gédéon, mais grâce à Dieu. Juste 300 hommes, c'était insuffisant, c'est sûr. C'est grâce à Dieu seulement. Donc de la même manière, Dieu va enlever nos sécurités pour qu'on ne fasse plus confiance à nos propres sécurités, mais qu'on lui fasse confiance à lui seul, qu'on reconnaisse que c'est par lui qu'on a la victoire. Alors je vous pose la question ce matin, en quoi mets-tu ta confiance dans la bataille? Est-ce que c'est tes ressources? Est-ce que c'est dans ta famille? Est-ce que c'est ton conjoint? Des fois on vit un peu au travers de l'autre, et puis mais lui il tient bien la baraque. Est-ce que c'est ton conjoint? Est-ce que c'est tes habiletés, tes capacités? Quelles sont tes sécurités? Alors le combat pour l'évangile, il est énorme, il est réel dans notre contexte, dans notre vie personnelle, dans notre lieu de travail, lorsqu'on choisit vraiment de mettre Jésus au centre. Mais il est énorme sur le plan de l'humanité. Et nous, ici, à l'escale, qui sommes-nous pour espérer remporter la bataille? Qui sommes-nous, on est quand même petits, peu nombreux, que pouvons-nous faire pour changer l'atmosphère de cette ville? Que pouvons-nous faire pour toucher des familles? Alors j'aimerais nous encourager ce matin. Ne regardons pas à ce que nous avons, mais faisons-lui confiance. Nous sommes assez pour faire une différence du moment qu'il nous a promis d'être avec nous. Écoutons, obéissons. On n'a pas les ressources? Ne soyons pas inquiets. Ce n'est pas une question de nombre, mais de foi. Je pense que vous avez tous été une fois au cirque et vous avez vu des trapézistes ou des funambules. C'est toujours impressionnant, n'est-ce pas? C'est beau, hein? Moi, je dis qu'on a toujours du plaisir à regarder quand on voit qu'au-dessous, il y a un filet, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que j'irais voir le spectacle avec mes enfants si je savais qu'il n'y avait pas de filet. Parce que quand même, s'ils se loupent, Je suis pas sûr. Après, si je dois faire de la relation d'aide avec mes enfants parce qu'ils ont vu le gars s'écraser par terre, hein, on n'irait pas, quoi. Donc, ce que je remarque, c'est qu'on peut aimer regarder les autres, prendre des risques avec un filet. On peut peut-être même nous-mêmes aimer prendre des risques avec un filet. Mais qui est prêt à faire la même chose sans filet? Et donc, je crois vraiment qu'avec Dieu, il faut lui faire assez confiance pour enlever nos filets de sécurité. Puis c'est cette confiance qui va se vivre, qui va se tisser dans l'intimité. Je ne sais pas si dans ce même registre, vous connaissez l'histoire de M. Gravelet, appelé Blondin. Ça vous dit quelque chose? Non, ça ne vous dit rien. Alors, une petite image ici. Dans les années 1860, il traversait, ce n'est pas que ça qu'il a fait, mais il traversait les chutes du Niagara sur une corde de 335 mètres de long à 50 mètres de hauteur. C'était impressionnant. Puis il était hyper connu. Les gens venaient de loin pour voir ses exploits. Il y a des délégations royales qui voyageaient pour venir le voir. Et il a même traversé sur cette corde avec des échasses. Il s'est même arrêté au milieu avec un petit réchaud, puis il a fait une omelette, puis il a mangé son omelette. Il a traversé avec une brouette. Il faisait l'aller-retour avec une brouette, puis il a mis un sac de patates dedans. Puis un jour, il y avait un duc qui était là avec sa délégation de Grande-Bretagne, et puis il lui dit, mon ami, le duc, est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu crois que je pourrais prendre quelqu'un dans ma brouette? Et puis le duc, il a vu ce que le gars faisait, il a dit, ben oui, je suis sûr que tu es capable. Tu viens? Tu montes dans la brouette? Puis il dit, ah non, non. Non, non, ça non, je fais pas. Bon, un peu déçu, puis il lance l'appel à la foule. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la foule qui voudrait venir dans ma brouette? Grand silence, hein, vous imaginez. Et puis là, une petite grand-maman sort, et puis elle vient se mettre dans la brouette. Bon, les gens, ils sont un peu stupéfaits, puis il part, puis il fait l'aller-retour sur cette corde avec la grand-maman dans la brouette. Tout se passe bien, alléluia. Mais cette personne, cette grand-maman, en fait, c'était sa maman. C'était sa maman. Et c'était la seule qui a été prête à confier sa vie à ce gars. Parce qu'elle le connaissait, parce qu'elle avait confiance en lui, parce qu'elle croyait en son fils. De la même manière, Dieu nous invite dans la brouette, les amis. Il nous a prouvé tellement de fois qu'il peut faire cette traversée. On a tous vu des signes, on sait que c'est un Dieu de miracle, on sait qu'il est capable. Mais il veut qu'on enlève nos sécurités. Il y a des moments dans le combat où il faut prendre des risques. C'est son filet. Mais j'aimerais vous redire que ce matin, Dieu, c'est notre filet. Dieu, c'est notre sécurité. Puis c'est suffisant. Si on veut remporter le bon combat de la foi, le combat d'une vie de disciple, on doit apprendre à lâcher nos sécurités, à plus dépendre de Dieu. Hein? Plus on dépend de Dieu, plus on ira loin. Amen. Lâchez les sécurités, les amis. Troisième combat, dernier combat, Josaphat contre trois royaumes, stratégie numéro 3. C'est un récit qui se trouve dans 2 Chroniques 20. Donc après la période des juges, vous savez, Israël a demandé des rois, exactement. Et puis il y en a eu plusieurs, il y en a eu quelques bons, et puis il y en a eu passablement de mauvais, parce qu'ils n'écoutaient pas l'Éternel. Alors Josaphat, c'était un peu un vaudois, quoi. Il était un peu ni pour ni contre. Il était un peu au milieu. Le bilan de sa vie, c'est pas très brillant, on sait pas exactement. Il a fait des bonnes choses, puis en même temps, il en a peut-être pas fait assez. Mais il a quand même été roi pendant 25 ans sur le royaume du sud d'Israël, qu'on appelle Juda. Il a bien écouté Dieu, en tout cas, quand il avait besoin d'aide. Quand il avait pas trop le choix, il a bien écouté Dieu. Mais on peut dire qu'il a pas fait de grand nettoyage. Mais évidemment, dans sa fidélité, ben, comme je l'ai dit, comme dans la période des juges, Dieu intervient toujours pour son peuple. Et puis, à un moment donné, il a voulu que tout le peuple revienne à l'Éternel et il a imploré le secours de Dieu. Donc en 2 Chroniques 20, il y a trois peuples qui s'approchent de Juda pour venir leur faire la guerre. Puis donc là, il est pris face au mur, hein, et il convoque tout le peuple, il les invite à jeûner et prier. Et puis il est dit ceci, Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. D'accord ? Il eut peur et il décide de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Donc pour lui, Dieu, c'est peut-être un peu la sonnette d'alarme. Hein. Je crois qu'on a beaucoup encore qui sont, des fois, on est un peu comme ça. Quand tout va bien, on n'a pas trop besoin de Dieu, mais quand ça ne va pas, ding-dong, il y a quelqu'un là-haut. Hein. Donc c'était un petit peu ça qui se passe. Et puis, malgré tout, il va faire aussi une prière magnifique au verset 12. Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et là, on retrouve l'importance des yeux. Ils ont choisi de fixer leur regard sur Dieu, de mettre leurs attentes sur l'Éternel. Et puis donc, Dieu va répondre par une prophétie, par l'intermédiaire d'une personne du peuple, et il va leur dire ceci. Deux Chroniques 20, les versets 15 à 17. « N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils arrivent par la montée du Tzitz et vous les trouverez au bout de l'Oued, en face du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à combattre. Postez-vous là, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur vous accorde. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés. Demain, sortez au-devant d'eux et le Seigneur sera avec vous. » Amen. Stratégie intéressante. Dieu leur dit, vous n'avez rien à faire. Moi, je ne sais pas vous, mais c'est de loin ma stratégie préférée. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir, là, ça me plaît, ça. Il n'y a rien à faire. Ils s'en occupent. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Comment va-t-il s'y prendre? Est-ce que vraiment on n'a rien à faire? Je ne me souviens plus exactement la situation exacte, mais je sais qu'un jour, j'avais reçu ce passage-là dans un défi qu'on était en train de vivre. Et puis, c'est vrai que ça laisse des questions. Parce que il y a quand même le mur qui s'approche. Il y a peut-être une situation où on est en train de se battre contre une situation, puis vous voyez les échéances qui arrivent, puis il vous a dit, c'est mon combat, je m'en occupe, tu n'as rien à faire. Tu vois le mur qui arrive gentiment, il dit, c'est quand que tu vas t'en occuper? C'est sûr que j'ai rien à faire? Il y a quand même des questions qui sont là. Mais il faut se tenir quand même devant ses ennemis. On a l'ordre de rien faire, la troupe est nombreuse. Bien sûr, il y a de quoi avoir peur. Cependant, c'est tellement important de se rappeler que notre bon combat, c'est aussi celui de Dieu. Et il se glorifie dans notre faiblesse. Parce que j'aime dans ce verset, il dit, nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Il se glorifie dans la faiblesse. Il peut même combattre à notre place. Alors des fois, ça demande de reconnaître notre état. Quand on reconnaît notre état sans force, notre état de faiblesse, vous permettez à Dieu de se manifester au-delà de nos attentes. Puis dans ce combat, Josaphat va faire quelque chose qui me semble très important, qui me semble clé aussi. Il n'a pas combattu, mais il était au-devant de ses ennemis avec la louange et l'adoration. Puis, c'est les versets suivants, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Verset 24, « Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. » Donc finalement, en combattant à leur place, la stratégie de Dieu était d'encourager Josaphat et son peuple à le célébrer et à le louer. Alors qu'ils ont commencé à louer, le combat a été remporté. Ils n'ont rien eu à faire, si ce n'est célébrer la grandeur de Dieu, son amour et sa fidélité. Moi, je suis persuadé que notre adoration, elle est tellement importante dans notre combat. Le fait que l'Éternel combat pour nous, c'est peut-être maintenant une évidence. Comme pour Josué, Gédéon, le combat était remporté dans les lieux célestes, premièrement. Ça, on ne peut rien y faire, nous. C'est Dieu qui le fait. Mais je crois que lorsqu'on commence à louer ensemble, l'Éternel combat pour nous. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Il domine, il règne. Il agit alors que nous l'adorons ensemble. Donc je vous encourage ce matin à ne pas négliger la puissance de l'adoration dans vos vies personnelles. Dans ce combat que vous menez, continuez à l'adorer en toutes circonstances. Et moi, je peux dire qu'il y a plein de fois où justement, je sens que je suis en train de mener un combat. Et puis là, il y a parfois, la joie est un peu éteinte, où on commence à avoir des inquiétudes. Et le fait de commencer à louer, de mettre de la louange, on a super, on, La louange, ce n'est pas juste la musique, on est d'accord, c'est aussi la prière, c'est plusieurs choses. Mais là, si je parle de la louange musique, le fait de mettre de la louange, de commencer à chanter, que ça sorte, commencer à célébrer qui est Dieu, je vous garantis qu'il y a quelque chose qui se passe. Et l'atmosphère est différente. Continuez à l'adorer en toutes circonstances. Amen. Alors je résume ce qu'on a vu ce matin. Je termine donc en vous rappelant ces stratégies de Dieu qui sont étonnantes, parfois folles, mais il veut nous apprendre à voir dans l'invisible, à voir dans les lieux spirituels et à lui obéir. Il veut nous apprendre à lui faire pleinement confiance, à lâcher nos sécurités. Puis il veut que nous puissions l'adorer en toutes circonstances, qu'on puisse le laisser combattre à notre place. Ça, les stratégies de Dieu pour remporter le combat. Amen. Amen. Alors je vous invite à juste fermer les yeux, peut-être repenser à ces stratégies, repenser à ces combats, repenser là où vous êtes maintenant, dans votre combat, que vous puissiez dire oui, oui Seigneur, je crois ce matin que le combat est remporté. Je veux voir ce que toi tu vois et je veux obéir à ta stratégie. Je veux apprendre à te faire confiance. Je veux apprendre à lâcher mes sécurités, à monter dans cette brouette. Je veux apprendre à louer, adorer en toutes circonstances. Parce que tu es un Dieu qui ne déçoit pas. Tu es le Dieu des armées. Tu es vraiment ce Dieu qui combat avec nous et pour nous. Père, on reconnaît que tes stratégies sont parfois déboussolantes pour nous, sont parfois tellement étonnantes, on n'arrive pas à les comprendre dans nos propres vies, dans ce combat qu'on mène pour te mettre à la première place, pour être disciple, pour te faire connaître au-delà de ces murs. On reconnaît qu'on ne comprend pas toujours comment tu opères. Mais ce matin, Seigneur, je prie pour une révélation. Je prie ce matin pour des yeux ouverts. Seigneur, quelle joie de pouvoir t'entendre nous dire « Vois, vois, regarde, j'ai déjà mené le combat, c'est déjà fait. » Quel cadeau immense. Seigneur, alors que des fois on est inquiet, Seigneur, tu nous dis « N'ayez pas peur, n'aie pas peur ce matin, j'ai déjà remporté la victoire. » Seigneur, on veut regarder à cela et on veut apprendre à t'obéir, on veut apprendre à te faire confiance, même si ça nous dépasse, même si on ne comprend pas. Même si on aimerait éviter de passer par un tel chemin, on veut accepter de te faire confiance. On veut aussi accepter de lâcher nos filets, nos sécurités ce matin. Nos solutions toutes faites. Seigneur, on veut accepter que tu es celui qui est notre solution. À point, c'est tout. Des fois, je t'entends dire, mais est-ce que je dois encore vous prouver quelque chose? Est-ce que je dois encore vous prouver quelque chose, les amis? Non, Seigneur, tu n'as rien à nous prouver ce matin. On sait que tu es Dieu. On sait que tu es capable, que tu agis en notre faveur. Tu combats pour nous ce matin. Et on te remercie. On veut continuer à t'adorer, à te célébrer. Alléluia. Amen.